Semaine Sainte 2022.
Semaine Sainte 2022 avec les Fraternités Apostoliques de Jérusalem.
Et dans le cadre de cette semaine sainte à Tarbes, je vous le rappelle, je vous propose maintenant un enseignement donné par le frère François Xavier sur la Sainte Cène qui aura lieu ce soir.
Donc on va invoquer l'Esprit Saint ensemble. C'est lui qui est notre maître intérieur, qui nous apprend à entrer plus profondément dans la connaissance de Dieu. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, viens nous éclairer, viens illuminer nos intelligences et brûler notre cœur au feu de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur.
Amen. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc je me présente juste, je pense qu'à peu près tout le monde me connaît, mais je suis le frère François Xavier, donc des Fraternités Apostoliques de Jérusalem, ici à la cathédrale. Et donc je vais vous parler de la liturgie de ce soir. Nous entrons donc dans le Triduum Pascal aujourd'hui, le sommet de l'année liturgique. Et je dirais que toute la Semaine Sainte est empreinte de sentiments mitigés. Nous sommes à la fois dans la joie de ce que se réalise notre rédemption, notre salut, et en même temps, nous éprouvons aussi tristesse et douleur devant la haine qui se déchaîne sur Jésus et qui lui a causé tant de souffrances. Ça a commencé avec le dimanche des Rameaux, où nous avons tous ensemble acclamé Jésus, le Seigneur, le Roi, le Messie. Et après, nous avons été plongés dans la brutalité de la passion que Jésus a endurée pour nous. Aujourd'hui, le Jeudi Saint, nous sommes d'une part pleins de reconnaissance et de joie pour le don de l'Eucharistie que le Seigneur nous fait pour nous communiquer sa vie. Et d'autre part, nous entrons au fur et à mesure de la liturgie dans la gravité des événements qui vont se succéder et conduire Jésus au mont des Oliviers où il vivra son agonie devant sa mort prochaine. Donc l'enseignement cet après-midi se veut une introduction à la liturgie que nous allons vivre ensemble ce soir pour entrer plus profondément dans la richesse de la liturgie, même si évidemment on ne peut pas tout dire. Donc pour commencer, le mot scène n'a rien à voir avec une scène de théâtre où nous assisterions comme des observateurs passifs à quelque chose qui resterait complètement extérieur à nous-mêmes. Mais le mot scène vient du mot latin cena et veut dire repas. Donc la scène du Seigneur, le repas du Seigneur. S'il fallait reprendre l'image de la scène de théâtre, eh bien, ce serait évidemment Jésus l'acteur principal, mais nous ne serions pas dans les gradins comme spectateurs, mais nous serions sur la scène. Jésus nous fait un immense cadeau, et qu'est-ce que serait un spectacle où il y aurait quelqu'un qui fait un cadeau et personne pour l'ouvrir? Eh bien, nous sommes là pour accueillir ce cadeau que le Seigneur nous fait. Nous célébrons donc ce soir le repas du Seigneur, où lui-même nous invite à y participer. Nous sommes réellement et véritablement participants de ce qui se passe parce que justement le Seigneur partage avec nous ce repas. C'est d'ailleurs tout le sens de la liturgie et en particulier de la messe. Rendre présent le mystère du Christ que nous célébrons. Aujourd'hui, donc, nous fêtons l'institution de l'Eucharistie et aussi du sacerdoce ministériel, mais du coup, pas comme quelque chose qui est uniquement dans le passé. Jésus, évidemment, a célébré la dernière scène il y a à peu près 2000 ans. donc dans le passé. Mais la liturgie nous rend présent cet événement, et du coup, c'est vraiment une réalité pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus vient à nous et nous dit à nous aussi, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est une citation de Saint Luc au chapitre 22. L'aujourd'hui de Jésus devient donc notre aujourd'hui à nous. Et c'est pour cela que nous entendrons pendant la prière eucharistique ce soir le prêtre dire au moment du récit de l'institution, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors ça dépendra un peu de quelle prière eucharistique il prendra, parce qu'il y a le choix entre trois différentes. Je vous les ai mis au tableau. Donc si c'est la une, ce sera la veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain et ainsi de suite. Si c'est la deux, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, etc. Et si c'est la trois, la nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, et ainsi de suite. Nous pourrons donc vraiment nous imaginer Jésus être là, présent, et le voir avec les yeux de notre foi, lui-même nous donner ce pain qu'il partage avec nous, comme son corps. Quand j'étais jeune et que j'ai appris justement que le prêtre disait ces paroles, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai essayé d'être très attentif à écouter à quel moment ça se dit. Et en fait, pendant plusieurs années, je l'ai à chaque fois loupé et j'étais un peu déçu. J'avais sans doute des distractions, mais je vous dis ça juste que si vous le loupez ce soir, c'est pas dramatique. Il y a plein d'autres éléments dans cette liturgie à prendre. Revenons au début de la célébration. L'ouverture est plutôt festive. Nous allons chanter ce soir le Gloria, ce chant que nous n'avons pas chanté depuis le début du carême, sauf pour les solennités de Saint-Joseph et de l'Annonciation, pour ceux qui y étaient. Et en plus, nous entendrons les cloches résonner pendant le Gloria. Donc le Gloria, c'est ce chant qui nous rappelle les anges qui ont exulté de joie au moment de la naissance de Jésus. Et peut-être qu'il criait aussi comme cet enfant parmi nous. Donc l'incarnation de Dieu fait homme. Voilà ce que nous rappelle le Gloria, et c'est une grande joie, et c'est justement ce que manifestent les cloches qui vont sonner à toute volée. Donc l'introduction de la messe est plutôt joyeuse, et c'est justement cet aspect joyeux dont je vous parlais en introduction, ce premier aspect et qui se conjugue avec la douleur, avec la tristesse qui suivra plutôt dans la deuxième partie de la célébration ce soir. Le Gloria d'ailleurs que nous entendrons à nouveau pendant la nuit de Pâques avec les cloches qui ressonneront à nouveau, et entre ce soir et samedi soir, normalement, toutes les cloches sont éteintes, nous n'en entendrons plus. Donc, si nous voulons être à l'heure aux offices, il faudra regarder notre montre et ne pas se fier au son des cloches des églises. Nous arrivons après à la première prière que le prêtre dit pendant la messe, qui s'appelle aussi la collecte, que je vais vous lire. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, et ainsi de suite. Je voudrais juste souligner que l'on parle de ce repas comme sacrement de son amour. C'est bien là, je pense, le plus important qu'il nous faut garder en tête pendant tout ce tridium, et bon, aussi pendant toute notre vie finalement. Tout ce que le Seigneur fait et endure pour nous est sacrement, c'est-à-dire un signe de son amour pour nous, cet amour infini. Il nous montre par là son amour inconditionnel. Et toute la vie de Jésus, au fond, n'est que révélation de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est dans ce grand mystère que nous pouvons justement puiser la charité et la vie en plénitude, comme le dit la collecte. Donc après ça, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Chaque année, nous entendons le Jeudi Saint exactement les mêmes textes. Il n'y a pas de cycle sur 3 ans comme habituellement le dimanche. Et la première lecture est tirée du livre de l'Exode et nous décrit le rituel de la Pâque juive. Donc lors de la sortie d'Égypte, c'est le sang d'un agneau qui a préservé les Hébreux d'être tués, de voir leur premier-né être tué, alors que tous les premiers-nés des Égyptiens avaient été frappés. Chaque année, les Juifs célébraient le mémorial de cet événement lors justement de leur fête de Pâques, cette grande fête. Et Jésus a choisi ce contexte de Pâques pour lui-même inaugurer un autre exode, bien plus profond, qui ne nous conduit pas de l'esclavage d'Égypte au pays libre en Israël, mais de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. C'est plus le sang d'un animal qui nous sauve, mais dans cette nouvelle alliance, c'est le sang de celui que Jean-Baptiste appelle l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le sang de Jésus-Christ fait chair, c'est ce sang-là qui nous sauve dans cette nouvelle alliance que nous célébrons. La joie et la conscience de la libération que les Hébreux ont éprouvée à l'époque, eh bien, est assumée par Jésus dans cette nouvelle alliance et portée à son accomplissement, à son sommet parfait. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes libérés de tout mal, comme nous le prions dans le Notre Père. Ensuite, nous chantons le psaume 115, qui est particulièrement parlant en ce Jeudi Saint. Je vous le lis rapidement. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. » Nous pouvons nous aussi avoir cette question en nous, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Nous sommes chacun ce serviteur du Seigneur dont il a brisé les chaînes de la mort et du péché. Et nous n'avons rien à lui offrir en contrepartie que notre action de grâce finalement, puisque tout ce que nous avons vient de lui. La seule chose que nous puissions lui offrir est justement ce sacrifice d'action de grâce dont parle le psaume. Levez les mains vides en signe de louange du Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Ce Seigneur à qui il coûte de voir mourir les siens et qui justement nous offre son salut. Nous ne pouvons qu'invoquer le nom du Seigneur, comme nous le chantons par 2 fois dans ce psaume, pour le remercier. Et comment ne pas penser à l'élévation de la coupe avec le sang du Christ pendant la messe quand nous disons « J'élèverai la coupe du salut ». La deuxième lecture est tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, écrite à peine 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Elle nous fait entendre un des 4 récits de l'institution de l'Eucharistie qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et Paul souligne qu'il transmet quelque chose qu'il a lui-même reçu. Je vous le lis. Je crois qu'il n'y a pas toute la lecture là, mais je vous lis une partie. « Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ce que saint Paul a lui-même reçu, il le transmet. Et c'est en fait rien d'autre que la tradition vivante de l'Église. Tout ce que le Seigneur a confié aux apôtres, ceux-ci l'ont transmis et cela nous parvient à nous encore aujourd'hui. Justement par la tradition de l'Église. Nous nous insérons dans une continuité qui nous relie par l'Église jusqu'à Jésus. Ce n'est qu'en Église que nous pouvons célébrer l'Eucharistie. Et l'Eucharistie et l'Église nous fait être en communion avec l'Église du monde entier aujourd'hui, avec l'Église de tous les temps et aussi avec l'Église du ciel. J'aimerais vous rendre attentif à la phrase « Faites cela en mémoire de moi ». Bon, c'est d'une part, c'est la phrase par excellence qui institue le sacerdoce ministériel et qui nous permet de célébrer aujourd'hui encore l'Eucharistie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi la fête des prêtres, donc c'est encore l'aspect joyeux de ce jour. Mais je voudrais surtout insister sur le mot « mémoire ». Ce n'est pas simplement un souvenir, quelque chose qu'on a voilà, quelque part dans notre tête, peut-être de manière un peu nostalgique, mais ça reprend la notion de mémorial qui est présente dans le rituel de la Pâque qui sera lu donc dans le livre de l'Exode. Et ça signifie en fait justement cette actualisation de ce qui s'est passé il y a 2000 ans aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé il y a 2000 ans nous est rendu présent aujourd'hui. Et c'est ce que je vous ai déjà partagé un peu au début. Et non seulement c'est la scène, le dernier repas de Jésus qui nous est rendu présent, mais en fait tous les mystères de la vie du Christ, depuis son incarnation, depuis l'Annonciation jusqu'à la Pentecôte. Tout ça est rendu mystérieusement présent dans l'Eucharistie et est comme assumé dans l'Eucharistie. Et en plus, non seulement c'est toute la vie du Christ qui vient à nous, mais finalement aussi tout ce qui, dans l'Ancien Testament, avait déjà préparé la venue du Seigneur, et notamment, justement, la Pâque juive, l'Exode, la libération d'Égypte. Et du coup, la messe a une richesse si incroyable que nous n'aurons jamais fini de scruter ses profondeurs jusqu'à la fin de notre vie. Et nous pouvons noter encore au passage que la dernière phrase... Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça devrait sans doute vous rappeler quelque chose. C'est une possibilité, parmi d'autres, de ce qu'on appelle l'anamnèse pendant la messe, juste après la consécration et que habituellement nous chantons. Donc sans doute ce soir on chantera « Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. » Donc c'est tiré de la première lecture, la première épître aux Corinthiens. Et d'ailleurs, le mot « anamnèse » vient du grec et veut justement dire « mémoire »,« mémorial ». Voilà. Ensuite, nous entendrons l'évangile du lavement des pieds, qui ne fait finalement qu'un avec le rite du lavement des pieds qui suit après l'homélie. Le verset qui est chanté avant l'évangile donne, je pense, bien le sens de ce que Jésus accomplit dans le lavement des pieds. « Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Le lavement des pieds est un geste d'amour suprême de Jésus pour nous. Et il nous commande de faire de même. Il faut bien avoir en tête que le lavement des pieds, à l'époque de Jésus, était vraiment une des tâches les moins considérées, les plus humbles, les plus honteuses peut-être même, si bien qu'un juif n'avait pas le droit d'obliger son esclave à lui laver les pieds si cet esclave était lui-même un juif. Et Jésus justement a choisi ce geste-là, le plus déprécié, le plus honteux, pour nous manifester son amour, jusqu'où il est prêt à aller par amour pour nous. Finalement, comme la fraction du pain, le don de son corps et de son sang, le lavement des pieds est en fait une anticipation du don de la vie de Jésus qu'il fera sur la croix. C'est une autre manière de nous montrer son amour. Et il y a un élément dans le texte lui-même qui fait le lien entre justement le lavement des pieds et l'offrande de Jésus sur la croix. Saint Jean écrit « Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. » Et après, il y a tout le reste du récit. Et un peu plus tôt, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, donc trois chapitres avant, au verset 17, Jésus avait dit « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, et littéralement c'est « je dépose ma vie pour la recevoir de nouveau ». Donc quand Jésus dépose son vêtement, en fait c'est comme s'il déposait sa vie à nos pieds. C'est le don de sa vie pour nous. Et du coup, le lavement des pieds, finalement, c'est ce mystère où Jésus vient nous rencontrer chacun personnellement. Il vient se mettre à genoux, à nos pieds. Et c'est bien le sens du rite que nous allons célébrer ce soir. Le prêtre qui représente le Christ va se mettre à genoux devant un certain nombre d'entre nous et nous laver les pieds. Et pendant ce geste liturgique, nous pourrons vraiment nous imaginer Jésus à nos pieds, à nous, en train de nous laver les pieds et le voir nous regarder avec plein de tendresse, avec un regard plein d'amour, nous baiser nos pieds et voilà, accueillir tout simplement ce geste d'amour que Jésus fait pour nous. Et je pense que nous n'avons rien à lui offrir en contrepartie. Et ça nécessite beaucoup d'humilité, d'accepter que Jésus vienne nous laver jusqu'à nos pieds. Et en fait, ce soir, si on avait le temps, on pourrait, le prêtre pourrait laver les pieds de toute l'assemblée. Je vous rassure, ce ne sera pas fait, ça ne durera pas toute la nuit. Mais enfin, c'est vraiment la signification de ce geste, que Jésus vient à chacun de nous, personnellement. Après la procession des offrandes, le prêtre dit une prière qui s'appelle « Prière sur les offrandes ». Et souvent, on n'est pas très attentif à cette prière, elle est souvent très courte. En tout cas, c'est dans mon cas, c'est comme ça. J'y suis pas trop attentif. Et ce soir, cette prière dira « Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. » Vous voyez donc qu'ici est repris la notion de mémorial dont je vous ai parlé. À chaque fois que le sacrifice de la messe est célébré, Eh bien, c'est justement l'œuvre de notre rédemption qui nous est rendue présente aujourd'hui. C'est-à-dire que nous pouvons vraiment participer à ce qui s'y passe, y communier. Un peu plus tard, la préface, c'est la prière que le prêtre dit ou chante juste avant le Sanctus. Et cette préface, ce soir, est centrée sur l'institution de l'Eucharistie. Je vous ai mis une partie. « Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. » Nous contemplons d'abord Jésus qui est le seul grand prêtre véritable. C'est lui qui est le prêtre par excellence. Et tout sacerdoce, toute prêtrise, que ce soit le sacerdoce des ministres ou le sacerdoce des baptisés, n'est qu'une participation à son propre sacerdoce à lui. Le sacrement de l'Eucharistie est un cadeau que Dieu fait aux hommes de tous les temps pour que, justement, les hommes de tous les temps puissent bénéficier de ce sacrifice que Jésus a fait une fois pour toutes, pour perpétuer son sacrifice, comme dit la prière. Et nous retrouvons ensuite la prescription de Jésus de faire cette offrande en mémoire de lui. Alors, puisque j'ai déjà parlé un peu de la spécificité des prières eucharistiques possibles avec le « c'est-à-dire aujourd'hui », je passe tout de suite à la prière après la communion. Donc, après la communion, le Saint-Sacrement reste sur l'autel, mais pas exposé dans l'ostensoir, comme quand nous faisons des adorations solennelles, mais simplement dans un ciboire. Et ça manifeste que, voilà, peu à peu, nous entrons dans la partie moins solennelle, plus grave, de ce qui va suivre. Le prêtre dit donc après la prière qui s'appelle la prière après la communion, « Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité. » Donc, c'est l'Eucharistie qui nous donne la force de poursuivre notre chemin pour tout ce qui va suivre et qui va être difficile. Et on parle aussi de l'aujourd'hui de la scène. C'est vraiment aujourd'hui que cela se passe pour nous, qui nous réunissons en Église. Et quand on parle du banquet de l'éternité, nous voyons aussi que nous sommes unis à l'Église du ciel, qui est déjà justement dans ses noces éternelles. Alors, pour une messe normale, on va dire, normalement, il y a après la bénédiction et l'envoi. Sauf que ce soir, il n'y en aura pas. C'est comme si cette liturgie, finalement, se poursuivait à travers tout le triduum pascal. C'est pas le moment de s'en aller et d'annoncer, de proclamer l'évangile, qui est justement le sens de ce que nous entendons habituellement, aller dans la paix du Christ. C'est le moment de rester avec Jésus et de veiller avec lui, comme il l'a lui-même demandé à ses disciples au Mont des Oliviers. D'ailleurs, je note au passage que demain, le Vendredi Saint, lors de l'Office de la Passion, il n'y aura ni introduction, enfin ni ouverture de la célébration, ni envoi à la fin. C'est comme si tout ça se déroulait dans un seul acte liturgique jusqu'à la veillée pascale. Mais revenons au Jeudi Saint, ce soir. Donc, ce n'est pas le moment de s'en aller, mais d'accompagner Jésus, de sortir avec lui au Mont des Oliviers pour l'accompagner jusqu'à l'agonie qu'il va vivre. Et c'est le sens de la petite procession que nous allons faire, lors de laquelle nous suivrons le Saint-Sacrement jusqu'au lieu que nous appelons le reposoir. Nous accompagnons Jésus dans son agonie, nous voulons veiller avec lui, le consoler, le contempler, lutter intérieurement contre le mal qui devient pour lui toujours plus lourd, ce poids qui l'endure en son âme de tout le mal que nous et tous les hommes de tous les temps avons commis. Eh bien, il tombe sur lui et lui cause une souffrance énorme. Eh bien, nous pouvons ensemble contempler l'acceptation que Jésus fait de ce mal pour lequel il n'y est pour rien. Lui, le trois fois saint, Dieu qui n'a même pas idée du péché et pourtant qui accepte pour nous, par amour pour nous, de prendre sur lui le poids et les conséquences du péché. Toute la nuit, nous pouvons adorer le Seigneur et méditer sa prière à Gethsémani, son arrestation, son procès, sa condamnation à mort. Nous pouvons cette nuit, devant le Saint-Sacrement, peut-être reprendre l'un ou l'autre texte des évangiles qui justement relate ce qui s'est passé entre le jeudi saint et le vendredi saint. Tout ça pour prendre conscience que Jésus fait ça pour moi aujourd'hui, personnellement, par amour. À la cathédrale, ce soir, il y aura au début une animation de cette veillée d'adoration. Un premier chant reprend l'angoisse que Jésus éprouve devant sa passion, devant sa mort prochaine, qui est tirée du chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean. « Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. » Il y aura aussi une longue intercession chantée pour toutes sortes de catégories de gens, si je puis dire, pour prier instamment le Seigneur que les mérites de sa passion, tout ce qui, son amour qu'il veut offrir au monde entier, ne reste pas sans effet et soit accueilli par tous les hommes. Et après, il y aura aussi un chant qui est en fait le chapitre 17 de l'évangile de saint Jean, mis en chant, qu'on appelle habituellement la prière sacerdotale de Jésus. On va chanter tout ce chapitre, et de cette magnifique prière, j'aimerais juste souligner que Jésus prie avec insistance pour l'unité, à plusieurs reprises. Je vous lis quelques extraits. « Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. » Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. L'unité est donc comme la condition sine qua non pour que le monde puisse croire. Et on pourrait peut-être dire que c'est aussi la raison d'être de l'incarnation de Jésus. C'est pour cela que Jésus a opéré notre rédemption, notre salut. En effet, Dieu avait créé l'humanité dans l'unité, et c'est le péché qui a introduit la division. Nous le voyons dès le début de la Genèse. Et d'ailleurs, Satan veut dire diviseur. Jésus est venu rétablir cette unité de Dieu entre Dieu et les hommes, et entre les hommes entre eux aussi. C'est l'objectif principal de la mission de Jésus, et c'est pourquoi Jésus prie avec insistance que cela advienne vraiment, qu'il soit un. Cette unité de chaque homme avec Dieu et entre nous n'est finalement rien d'autre que l'Église avec un E majuscule, qui est le corps du Christ. Et c'est bien significatif que Jésus prie cela le soir du Jeudi Saint, où il institue l'Eucharistie, car l'effet principal de l'Eucharistie est justement de créer l'unité, de fortifier le corps du Christ que nous formons, de faire l'Église. Unité de chacun avec Dieu et unité entre nous tous. Et quand nous communions, eh bien, nous devenons le corps du Christ. Nous devenons ce que nous recevons. Et du coup, quand nous communierons ce soir, et d'ailleurs quand nous communierons n'importe quel jour, nous pouvons vraiment nous imaginer, et ce n'est pas juste une image, c'est vraiment quelque chose de réel, faire partie du même corps que tous les autres qui sont là présents avec moi. Parce que c'est le corps du Christ, un unique corps que nous formons mystérieusement, mais réellement. Nous pourrons aussi, tout au long de cette nuit, prier pour l'unité, nous associer à cette prière de Jésus. Et évidemment, quand on parle de l'unité, on trouve que c'est magnifique, que c'est super beau, et bon, en théorie, on est tous d'accord. Mais quand ça devient concret et qu'il faut le vivre vraiment réellement avec ceux qui sont autour de moi, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes parents, avec ces paroissiens avec qui j'ai du mal, qui m'agacent, avec mes voisins, ça devient plus difficile. Mais c'est là que ça commence. C'est là qu'est tout l'enjeu de cette prière d'unité. C'est là qu'il nous faut agir pour être des acteurs d'unité et porter justement vraiment cette intention de Jésus, qu'il soit un comme nous. Le dernier chant, et je terminerai avec ça, sera le psaume 21, que vous connaissez bien, puisque c'est, enfin, le début de ce psaume, c'est ce que Jésus dit sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être on peut terminer avec un chant. « Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre attention.